Dans le chapitre 4 du livre du Deutéronome, Moïse encourage les Israélites à obéir à l'Éternel. Il leur donne plusieurs bonnes raisons pour cela. La dernière qu'il a citée est « parce que l'Éternel a aimé tes ancêtres ». C'est la première fois dans les Écritures que Dieu dit « aimer quelqu'un ». Jusque-là, il l'a prouvé par ses actions, mais sans jamais le dire. C'est par amour qu'il a choisi Abraham et délivré les Hébreux de l'esclavage égyptien. L'obéissance d'Israël est vue comme une réponse à cet amour de Dieu pour lui. Pareillement, Jésus a dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » C'est parce que Dieu a tant aimé le monde que Jésus est venu pour donner sa vie en rançon pour nous tous. Il s'est chargé de mes fautes afin que j'en sois libre et ainsi échappe au jugement divin. Plus loin dans le livre du Deutéronome, le texte donne une cinquième raison pour laquelle l'obéissance à la loi est demandée. Israël est le peuple qui appartient à Dieu. Je lis le passage. « Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez donc pas d'incision sur le corps ni de tonsure sur le front de votre tête. Vous êtes en effet un peuple saint pour l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel vous a choisi parmi tous les peuples répandus sur la surface de la terre pour que vous lui apparteniez comme un peuple précieux. Vous ne mangerez rien d'abominable. » Fin de citation. Je continue maintenant le texte du chapitre 4. « Seulement, veille attentivement sur toi-même. Et garde-toi bien d'oublier les événements dont tu as été témoin, qu'ils restent gravés dans ta mémoire pour tous les jours de ta vie, et informe-en tes fils et tes petits-fils. » Verset 9. Ici, à plusieurs reprises dans le Deutéronome, le texte met l'accent sur l'importance du souvenir. Les actions de l'Éternel pour son peuple doivent être transmises de génération en génération. C'est au fait constitue la preuve de sa puissance et de sa fidélité envers les Hébreux. C'est là ce qui constitue le fondement de la foi et de l'espérance d'Israël. Mais les promesses de l'Éternel sont conditionnées par leur obéissance à ses commandements. Les parents israélites sont donc tenus de transmettre fidèlement la loi de Dieu à leurs enfants. Dans les pays occidentaux, lorsqu'un système éducatif est en faillite, on cherche évidemment un bouc émissaire et les enseignants sont montrés du doigt. Dans la réalité, le problème se situe généralement à la maison où, pour une raison ou pour une autre, la discipline est absente de la vie des enfants. Les familles en déconfiture en particulier sont une source de gosses à problème. C'est pour cela que l'Éternel ordonne aux parents d'éduquer leur progéniture et de ne pas compter sur le prêtre de service ou sur l'instituteur. Je continue un peu plus loin. L'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu ses paroles, mais vous n'avez vu aucune forme. Il n'y avait qu'une voix. N'allez pas vous corrompre en vous fabriquant des idoles, des figures ou des représentations quelconques. N'allez pas lever les yeux vers le ciel et regarder le soleil, la lune, les étoiles et tous les astres du ciel pour vous laisser entraîner à vous prosterner devant eux et leur rendre un culte. L'Éternel, votre Dieu, a laissé cela à tous les peuples qui sont sous tous les cieux. Versets 12, 16 et 19. Dans ce passage sont énumérées les deux formes principales d'idolâtrie. Celle qui consiste à diviniser des êtres terrestres, comme cela se faisait en Égypte, et l'autre par laquelle un culte est rendu au corps céleste, le soleil, la lune et les étoiles, comme c'était le cas en Perse, par exemple. Ces deux formes d'idolâtrie seront de constantes tentations auxquelles Israël cédera souvent. Lorsque Jésus était sur terre, il a bien précisé la nature de Dieu, en particulier quand il a dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent par l'esprit et en vérité. » Fin de citation. Les Israélites ne devaient jamais fabriquer une représentation quelconque de la divinité. Même si nous savons que la seconde personne de la Trinité est devenue un homme, les Écritures sont muettes concernant son apparence physique. Certains pensent qu'une image ou une statue les aide à adorer Dieu. Un commentateur biblique écossais d'une autre époque a dit ceci. Les hommes se font une représentation de Jésus quand ils n'ont plus sa présence dans leur cœur. Fin de citation. Tous les principes énoncés dans ce chapitre par Moïse sont des vérités fondamentales qui n'ont pas vieilli avec le temps. Je continue le texte plus loin. Gardez-vous d'oublier l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a conclue avec vous et de vous fabriquer une idole représentant quoi que ce soit. Car l'Éternel, votre Dieu, est comme un feu qui consume, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Ainsi, lorsque vous aurez des enfants et des petits-enfants et que vous aurez habité un certain temps dans le pays, si vous vous laissez aller à fabriquer des idoles représentant quoi que ce soit, si vous faites ainsi ce que l'Éternel, votre Dieu, juge mauvais et que vous l'irritez, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Si vous faites cela, vous ne tarderez pas à disparaître du pays dont vous allez prendre possession après avoir traversé le Jourdain. Vous n'y subsisterez pas longtemps, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples et vous serez réduits à un petit nombre au milieu des nations chez lesquelles l'Éternel vous forcera à aller. Verset 23-27. L'expression que je viens de lire, « L'Éternel, votre Dieu, est comme un feu qui consume », est un symbole de jugement. Cette image est liée au thème de la colère de l'Éternel et de son exigence d'exclusivité dans sa relation avec Israël. Elle évoque l'action de Dieu qui détruit le mal et ceux qui s'y livrent avec obstination. Les Juifs offrent encore aujourd'hui au monde entier le témoignage de sa désobéissance. Ils sont toujours dispersés de par le monde. Quant à la nation qui existe en Palestine, sa situation est bien précaire, et ce n'est pas dit qu'ils ne seront pas à nouveau chassés de leur héritage ancestral. Les Israélites demeurent encore sous le jugement de Dieu à cause de leur rébellion contre l'Éternel au fil des siècles. Mais comme je l'ai déjà dit plus tôt, tout espoir n'est pas perdu. Je continue le texte un peu plus loin. Alors vous chercherez l'Éternel, votre Dieu, et vous le trouverez si vous vous tournez vers lui de tout votre cœur et de tout votre être. Dans votre détresse, lorsque tous ces malheurs auront fondu sur vous dans la suite des temps, vous reviendrez à l'Éternel, votre Dieu, et vous lui obéirez. Car l'Éternel, votre Dieu, est un Dieu compatissant. Il ne vous abandonnera pas, ni ne vous détruira. Il n'oubliera pas l'alliance qu'il a conclue par serment avec vos ancêtres. Versets 29 à 31. Dans la suite des temps est un terme un peu technique qui fait référence au temps de la fin lorsque l'Antéchrist sera au pouvoir sur terre. C'est à ce moment-là qu'Israël, en tant que nation, retournera vers l'Éternel et en particulier reconnaîtra en Jésus son Messie. Malgré toute leur rébellion, les Hébreux n'ont pas été rayés de la carte des nations à cause de l'amour de Dieu pour eux, de sa miséricorde et des promesses formelles qu'il a faites à leurs ancêtres. Je continue et finis ce chapitre. Un peuple a-t-il entendu comme toi la voix de Dieu parlant au milieu du feu sans perdre la vie? Et quel Dieu a jamais entrepris d'aller se chercher un peuple du milieu d'un autre peuple à force d'épreuves, de signes miraculeux, de prodiges, par des combats, et en intervenant avec puissance en semant la terreur, comme tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait pour vous en Égypte, et dont tu as été témoin. Toi, il t'a fait voir tout cela pour que tu saches que l'Éternel seul est Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre, parce qu'il a aimé tes ancêtres, et parce qu'il a choisi leurs descendants après eux, il t'a fait lui-même sortir d'Égypte en déployant une grande puissance. Versets 33, 35 et 37. Les Israélites ont vu les œuvres de Dieu et entendu sa parole. C'est ainsi que l'Éternel a révélé qui il était et ce qu'il désirait d'eux. Il veut entre autres que son peuple se souvienne de tout ce qu'il a fait pour lui depuis sa sortie d'Égypte. Cette première référence dans le Deutéronome à l'amour de Dieu pour son peuple constitue un thème central du livre. L'action libératrice de l'Éternel en faveur d'Israël a pour mobile son amour pour leurs ancêtres, à commencer par Abraham, et le choix qu'il a fait d'Israël, sans que ce peuple n'y soit pour quoi que ce soit. Cet amour divin appelle en retour l'adoration d'Israël pour son Dieu. Et c'est ainsi que se termine le premier discours de Moïse de ce livre. C'est un vaste prologue historique qui rappelle les événements qui se sont produits depuis la conclusion de l'alliance de la loi promulguée sur le mont Sinaï. Deux moments importants sont soulignés par Moïse. Premièrement, la révolte de la première génération qui a refusé de conquérir la terre promise, suivie du châtiment du peuple qui dura 38 ans, le temps que tous les plus de 20 ans disparaissent dans le désert. Deuxièmement, la conquête des territoires à l'est du Jourdain et la destruction complète des deux rois amoréens. Puis Moïse exhorte la nouvelle génération à demeurer attachée à l'Éternel, le seul vrai Dieu, et à obéir à ses commandements. Nous voici parvenus au chapitre 5 qui débute le second discours de Moïse. C'est une répétition du décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements et des lois générales promulguées sur le mont Sinaï ainsi que de certains événements du passé. La première génération a été punie pour sa révolte et leurs os blanchissent sous le soleil du désert. Les jeunes loups ont besoin d'entendre de leurs oreilles ce que l'Éternel exige d'eux. Je commence à lire. Moïse convoqua tout Israël et leur dit « Écoute, Israël, les ordonnances et les lois que je vous communique aujourd'hui de vive voix. Apprenez-les, obéissez-y et appliquez-les. » Verset 1. La formule très solennelle « Écoute, Israël » fait ressortir l'importance toute particulière de ce que Moïse va dire au peuple. Il donne un excellent conseil. On obéit à la parole de Dieu en commençant par l'écouter. Ensuite, il faut la prendre ou la méditer afin de bien la comprendre. Et enfin, la mettre en pratique. Jacques, le demi-frère de Jésus, a écrit une lettre qui porte son nom et dans laquelle il dit « Recevez avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché, et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. » Fin de citation. Tous ceux qui se disent en faveur des 10 commandements ou du sermon sur la montagne ne les mettent pas forcément en pratique. En réalité, les Israélites devaient se conformer à la loi par amour pour leur Dieu et non pas comme système pour gagner des bons points. C'est ce que l'apôtre Paul affirme sans détour lorsqu'il dit « Cependant, nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non parce que l'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. Car, comme le dit l'Écriture, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. » Fin de citation. Personne n'est capable de garder la loi. Songez un instant au plus grand commandement selon Jésus. Il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Fin de citation. Jésus-Christ est le seul être vivant qui l'ait mis en pratique durant toute sa vie. Le rôle de la loi, donc, est de me révéler la personne de Dieu, ses exigences et surtout mon état coupable devant lui. Elle est telle un précepteur qui conduirait son élève vers la vérité. Je cite à nouveau l'apôtre Paul. Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire au Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Fin de citation. Je continue notre texte. L'Éternel, notre Dieu, a conclu une alliance avec nous au mont Horeb. Ce n'est pas seulement avec vos ancêtres que l'Éternel a conclu cette alliance, c'est avec nous tous qui sommes ici aujourd'hui et en vie. Versets 2 et 3. Les ancêtres sont tous les Israélites qui, depuis Abraham, ont précédé la génération actuelle. Le privilège de l'alliance par le moyen de la loi a été réservé à ceux qui composent le peuple sur le point de pénétrer en terre promise. Les Israélites sont aujourd'hui tous vivants, préservés de tous les dangers qui les ont menacés durant la traversée du désert et dans les guerres qui ont suivi. Ils étaient maintenant prêts à jouir de tous les bienfaits de cette alliance qui avait été conclue entre l'Éternel et leurs ancêtres. Je continue. Sur la montagne, l'Éternel vous a parlé directement du milieu du feu. Je me tenais alors entre l'Éternel et vous pour vous transmettre sa parole, car vous aviez peur de ce feu et vous n'êtes pas monté sur la montagne. Voici ce qu'il a dit. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Versets 4 à 7. Ici commence la deuxième présentation du décalogue, c'est-à-dire des 10 commandements. La première nous est rapportée dans le livre de l'Exode. Cette reprise joue un rôle de résumé, de condensé général de la loi. Toutes les ordonnances spécifiques qui suivront ne sont au fond que des applications du décalogue à des situations concrètes ou à des cas particuliers. Ces 10 commandements sont la véritable charte de l'alliance du Sinaï. Ils ont marqué, bien au-delà d'Israël, toute la culture occidentale. L'énoncé du décalogue, comme d'ailleurs de tout le reste du discours de Moïse, revêt la forme littéraire de l'exhortation. En effet, ce n'est plus Dieu en personne qui commande, comme dans les paroles rapportées dans le livre de l'Exode, mais c'est Moïse qui rappelle les commandements divins. Cela ressort expressément dans la formule répétée « comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé ». Moïse ne change rien sur le fond de la loi divine elle-même, mais il insiste, selon ce qu'il juge à propos, sur certains points propres à concerner la nouvelle génération. Le premier commandement est dirigé contre l'idolâtrie, l'adoration des faux dieux. L'athéisme est une idée relativement récente. En effet, la tendance naturelle de l'homme l'oriente vers le polythéisme. Lorsque l'humanité rebelle construisit la tour de Babel, c'était dans le but de braver l'Éternel en offrant sur son sommet des sacrifices au soleil et à tous les astres des cieux. Après le déluge, ce furent des créatures et non le Créateur qui devinrent l'objet de leur adoration. Je continue le texte. Tu ne te feras pas d'idole représentant quoi que ce soit de ce qui se trouve en haut dans le ciel, en bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la troisième et même la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Versets 8 à 10. Ce deuxième commandement est plutôt détaillé. La plupart des gens prétendent ne pas adorer d'idole. En réalité, tout ce qui mange mon temps et mon argent de manière déraisonnable, ce qui occupe mon esprit et mon cœur en premier lieu, est une idole. Ce peut être le sport, le plaisir, la télé, les voyages, une personne, le travail, n'importe quoi. Je continue. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Verset 11. Il s'agit spécifiquement de jurer au nom de Dieu dans le but de tromper son prochain. Cependant, le langage ordurier qui utilise le nom de Dieu ne vaut pas mieux et un jour ce sera le règlement de compte. Selon ce que Jésus lui-même a dit, et je le cite, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Fin de citation. Et sur ces paroles très sobres, je termine pour aujourd'hui.